Gloire à Dieu. On continue notre petite étude sur les responsabilités du chrétien. Le chrétien et ses responsabilités. Comme je vous l'ai dit la semaine passée, Dieu nous a créés 100% libres. Dieu s'aurait voulu, il aurait pu faire de nous des robots. Puis qu'on n'ait jamais d'option, autre option que de dire « oui, maître, oui, maître ». Puis là, on aurait avancé dans notre vie, dans l'obéissance à 100%. Sans avoir un cœur nécessairement d'affection envers Dieu, juste le fait de dire, il dit un ordre, puis on le fait, puis on n'a même pas, on ne démontrera pas qu'on l'aime si on serait comme déjà programmé à tout faire ce qu'il nous dit. Mais il a créé le monde libre, puis là, le monde, dans sa liberté, s'est éloigné de Dieu. On a perdu même le contact avec Dieu. On est à mort spirituellement. Il a fallu qu'il nous ramène à la vie, qu'il nous reconnecte avec lui. C'est ça qui est naître de nouveau. Quand une personne se repent, Dieu a fait un plan pour qu'on puisse se repentir, pour être pardonné, puis que là, Dieu rentre dans notre vie, puis on retrouve le contact avec lui. Puis là, on peut l'entendre, puis on peut le suivre, pas parce qu'on se sent obligé, on le fait parce qu'on l'aime, Dieu. On aime le Seigneur, puis on aime ce qu'il a fait. Puis c'est tout par la foi, hein? Moi je ne l'ai pas vu le Seigneur. Peut-être dans un songe, dans un rêve, j'ai vu des apparences du Seigneur, mais pas en personne. Je ne l'ai pas vu, on n'était pas là, mais on marche par la foi. On a reçu son livre qui nous parle de tout ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, puis on y croit. C'est même plus qu'on y croit. On a une ferme assurance que c'est vrai, puis on le sait que ça va s'accomplir, puis on le sait où est-ce qu'on s'en va à cause de cela. On s'en va dans la vie éternelle. Puis là, pour tout ce que Dieu a fait, là, moi je pense que on peut pas faire autrement que de l'aimer puis de vouloir marcher pour lui. Il s'est livré publiquement en spectacle, puis il s'attend à ce que nous aussi, qu'on marche publiquement en portant notre croix, en portant son message. Frères et sœurs, c'est notre responsabilité, puis c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Une de nos responsabilités. On a au-dessus d'une vingtaine de faits, puis il en reste quelques-uns, des points principaux de ce que Dieu veut pour chacun de nous. On va regarder ensemble aujourd'hui que le Seigneur s'attend à ce que chacun de ses enfants devienne de vrais témoins de Dieu. Être un témoin. Un témoin, qu'est-ce que ça fait un témoin? Ça témoigne. Ça rend témoignage. Ça raconte quelque chose. Ça raconte soit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu ou ce qu'il a vécu, mais ça porte un message aux autres. Dans le dictionnaire, parce que là, le titre du message, c'est « Chercher à être un ambassadeur ». Puis pour ceux qui ne savent pas, j'ai sorti la définition du dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire d'être un ambassadeur. Un ambassadeur, c'est un représentant de haut rang. C'est pas les balayeurs, c'est pas les ticounes. Pour Dieu, là, quand que Dieu choisit quelqu'un puis le nomme ambassadeur, c'est un représentant de haut rang, une dignité dans ce royaume-là qui s'en va puis il représente ce roi-là. Il représente ce royaume-là. Il s'en va là comme auprès d'un autre État. Tu pars d'un État parce que tu fais partie de ce royaume-là, de cet État-là, pour aller vers un autre État ou une autre organisation internationale. Tu diriges une mission diplomatique pour défendre les intérêts de ton pays. C'est ça un ambassadeur. Si tu en vas parler dans le nom de ton pays, tu peux établir des relations avec d'autres pays pour le trafic dans le monde, là, les ambassadeurs. Tous les pays ont des ambassades, puis ont des ambassadeurs du monde dans d'autres pays qui représentent le Canada. Mais nous, on est des représentants du royaume de Dieu. On est des personnages de haut rang utilisés par Dieu pour pouvoir apporter le message de Dieu aux humains. Au royaume des cieux, envers le royaume terrestre, notre message, c'est qu'on est implanté sur la terre temporairement pour publier, parler, établir des contacts pour amener plus de monde possible dans le royaume. Le terme est aussi utilisé au sens figuré pour désigner une personne qui est chargée d'une mission, de promouvoir l'image d'un pays. Nous, notre mission, c'est de parler du royaume de Dieu de parler de notre Dieu, parler de ce qu'il a fait, de ce qu'il va faire, etc. On va en envoyer des points aujourd'hui. On est là pour représenter notre pays, puis parler en bien de notre pays pour que les gens soient intéressés à venir dans notre pays. On veut qu'il y ait de plus en plus d'immigration. Des gens qui partent de l'autre royaume, du royaume des ténèbres, pour rentrer dans le royaume de la lumière. Parce qu'on sait qu'à la fin de cette histoire terrestre, là, hein, il y a juste ceux qui vivent dans le royaume de la lumière qui vont continuer à vivre dans la vie éternelle. Les autres ne rentreront pas. Les autres, pire que ça, ils vont perdre leur vie. Ça va être des souffrances éternelles d'être séparés d'avec Dieu pour l'éternité. Nous sommes dans les dernières minutes avant que le monde s'acharne sur les chrétiens, frères et sœurs. Ça, c'est un autre point. C'est comme si ce qui s'est produit justement en Russie, qui ont détruit l'ambassade de l'Ukraine, je crois, ou j'ai entendu ça cette semaine, c'est que le pays, tu n'as même plus qu'il y ait une ambassade de ce pays-là qui les représente, ils détruisent l'ambassade. Mais nous, les chrétiens, c'est à la veille un jour, dans pas long, c'est écrit qu'il va leur être permis de faire la guerre aux saints puis de les vaincre. Que la guerre va être déclenchée contre les chrétiens, une résistance parmi les humains qui veulent plus entendre parler de Dieu, puis ils veulent plus d'ambassade du royaume de Dieu qui s'affiche publiquement dans leur territoire. Ça veille, frères et sœurs. Puis il nous reste plus grand temps pour pouvoir représenter notre pays, notre royaume, présenter notre Dieu. Le message de la bonne nouvelle doit être annoncé par l'Évangile pour le peu de temps qui reste sur cette planète, ou ce qu'on reste sur cette planète. Tant qu'on va avoir les deux pieds ici, c'est notre mission comme ambassadeur de représenter notre pays. Le Seigneur l'a déjà dit à ses disciples, « Allez par tout le monde » dans Marc 16, 15. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à tous. » Toute la création, frères et sœurs, c'est notre mission. Parler de Jésus en commençant dans nos familles, dans nos amis, dans nos voisins, nos compagnons de travail, les habitants de notre ville, les habitants de notre province, partout où on passe, on peut parler de Jésus. C'est notre mission, il dit, aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Sans trier. Il y en a des gens là, qui se sont convertis, on n'aurait jamais pensé qu'ils se convertissent. Ils ont de l'air des criminels, ils ont de l'air des bandits, il y a du monde en prison qui se convertissent, là, des tueurs, là, des gars pleins de tatous, là, des colosses, des armoires à glace, puis ils sont à genoux, puis ils prient en pleurant pour demander pardon au Seigneur. Parce qu'il y a quelqu'un qui aura osé y en parler. Puis c'est Dieu, Satan, ce qu'on ose en parler. Puis d'en parler parce qu'il ne reste plus grand temps. On est encore les représentants du royaume. C'est aussi écrit dans la parole qu'ils ne se convertiront pas s'il n'y a personne qui prêche. Il faut que les gens entendent parler du Seigneur, puis entendent parler de leur état spirituel devant Dieu. En étant dans le péché, ils s'en vont dans le lac de feu éternel. C'est pas des farces. Puis si on le dit pas, ils peuvent pas se convertir. C'est ça qui est écrit dans Romains 10, 14. Ça nous dit, comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Puis comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Puis comment y en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? L'apôtre Paul, quand il écrit ça, il voulait parler à l'Église, puis il dit, il faut que vous en parliez. Parce que je vous le dis, frères et sœurs, mais qu'on arrive l'autre bord, là, puis qu'on voit du monde qu'on aimait, qui sont là, qui s'en vont dans le lac de feu, là, puis qui pleurent devant le Seigneur, puis là, il est trop tard. On va pleurer nous autres en disant, pourquoi j'y en ai pas parlé? Pourquoi je n'y ai pas dit? Pourquoi je n'ai pas insisté pour qu'ils se convertissent? Ça dit contraint-les d'entrer. Ça, c'est forcer le monde à rentrer. D'insister, insiste en toute occasion, favorable ou non. Parler avec hardiesse, sans arrêt, pour leur dire, mais on va le voir tantôt, qu'est-ce qu'on doit dire aux gens. C'est pas des farces, mais qu'on arrive l'autre bord, on va peut-être être gêné devant le Seigneur, de pas avoir pris position comme le Seigneur s'attendait à ce qu'on prenne position. Oh Seigneur, je t'ai gêné. Oh Seigneur, j'avais honte de parler de Jésus. Oh mon chum, il en a parlé, là. Mon frère dans le Seigneur, il en a parlé, puis j'étais tout gêné qu'il parle de Jésus. Là, je critique pas, je fais juste dire que ce que j'ai déjà vécu. Mais je veux pas, je veux plus être gêné, je veux pas être gêné. Je veux m'afficher publiquement pour chanter les chants du Seigneur puis prêcher la parole en public. On est appelé à ça, frères et sœurs. Il faut vraiment entrer dans notre rôle. Nous sommes ouvriers avec Dieu pour le salut des âmes. C'est ce que ça dit dans 1 Corinthiens 3:9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est pas juste Dieu qui fait le travail. C'est aussi nous qu'il faut faire le travail. Si nous, on fait pas notre job, comment est-ce qu'ils vont croire s'il y a personne qui prêche? Puis ils vont tous s'en aller dans les temps de feu en mourant dans leur péché. Puis là, si vous dites, ouais, mais je sais pas quoi dire. Je sais pas que je dois parler. Je vais vous en donner des sujets qu'on doit parler. Que la Bible nous le dit déjà de parler de cela. Dieu veut que l'on parle de son nom. C'est qui Dieu? Il y en a tellement de dieux dans ce monde-là. Il y a tellement de faux dieux parce qu'il n'y en a qu'un créateur. Il n'y a pas 10 créateurs. Il y a un seul Dieu qui est formé en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, point final. Les autres, c'est tous des menteurs. S'il y en a un dans sa doctrine, il dit, « Moi, je crois en Dieu le Père, mais je crois pas que Jésus est Dieu. » C'est un antéchrist. Celui qui a le Fils a aussi le Père. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas non plus le Père. Même s'il parle au Père, s'il ne croit pas que Jésus est Dieu, il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est ça que Jésus a dit. Il est Dieu fait homme. Fait que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, que les trois forment un seul Dieu, c'est le seul Dieu créateur de toute chose. Les autres, c'est tout du mensonge. Puis on faut lui dire aux gens du dehors, qui est Dieu, parler de son nom. Dieu le Père, Yahvé. Jésus l'appelait Père. Puis c'est Dieu le Père. Abba. Il veut qu'on parle de son nom premièrement dans l'Assemblée. Êtes-vous gêné de parler de Jésus dans l'Assemblée? Non. C'est sûr, on se sent à l'aise à 100%, on le sait que tout le monde pense la même affaire. On n'est pas gêné. Puis là, il dit dans le psaume 22 ou 23, ça dépend quelle traduction, il dit, « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'Assemblée. » Ça veut dire, c'est dit qu'on va publier le nom du Seigneur parmi les frères. C'est pas gênant, c'est pas dur, c'est facile. Puis je vous encourage, quand on se parle entre nous autres, de parler plus souvent de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, des versets de la Bible, pour que ça vienne naturel. C'est un centre d'entraînement, l'Église. C'est un centre de formation. On est ici pour apprendre des choses, puis d'en parler pour que ça vienne, qu'on les maîtrise, les sujets. Mais Dieu veut pas qu'on se limite juste ici. C'est parfait d'en parler ici. Mais il veut aussi qu'on en parle partout. Et Dieu veut qu'on parle de son nom partout. Dans les rues, dans les parcs, dans les maisons, ou en prison, ou peu importe, dans les hôpitaux, n'importe où, partout. Dans Exode 9:16, là j'ai pris un verset, mais il y a plus qu'un verset qui parle de chaque sujet. Là. Ça nous dit... Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Dieu, son plan, c'est qu'il choisit des personnes pour publier son nom parmi toute la terre. Puis il nous dit à nous, allez par tout le monde prêcher à toute la création. C'est qui doit être les premiers à parler de son nom parmi toute la terre? C'est les chrétiens. Tous les chrétiens, pas juste le pasteur. Tous les chrétiens doivent avoir comme mission, que c'est le plan de Dieu, qu'on parle de son nom à toute la création. Dieu veut aussi qu'on parle de ses hauts faits à tout le monde. Ses hauts faits, c'est les, ces choses grandioses, les miracles que Dieu a faits. Dans le psaume 9, 11 ou verset 12 dans certaines Bibles, ça dit « Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits. » Publiez parmi les peuples, ça c'est dehors, ses hauts faits, ses miracles, ces choses extraordinaires que Dieu a faites. Publiez, c'est parlez-en, que ce soit par des chants, que ce soit par des prédications, là, des explications que vous allez expliquer à quelqu'un, c'est de parler à tous les peuples. Tous les peuples, tu vois un noir, tu vois un chinois, tu vois un vietnamien, tu vois un amérindien, peu importe, tous les peuples doivent entendre parler. Sans distinction, il veut qu'on prêche à toute la création, toutes ses créatures. De parler de ses hauts faits, fait que, est-ce que Dieu a fait des choses extraordinaires? Est-ce que vous n'avez vu dans la Bible des choses extraordinaires? Ça en donne plein de sujets qu'on peut parler. Tu peux parler de la création, tu peux parler du déluge, tu peux parler comment Dieu a sauvé les gens du déluge puis qu'ils ont repeuplé la terre, tu peux parler de ce que Jésus a fait, les miracles de Jésus. Il y a plein d'affaires extraordinaires qu'on peut raconter pour élever notre roi, pour élever notre Seigneur. Dieu veut qu'on parle aussi de ses œuvres à tout le monde. On voit ça dans un autre passage. Dans Ésaïe 12, 4. Et vous me direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez la grandeur de son nom. Publiez ses œuvres, c'est de raconter ce qu'il a fait. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour qu'on soit sauvé? Il est mort sur la croix. Publiez ça à toutes les nations. Dire que Jésus est mort sur la croix pour pardonner leurs péchés, que Dieu a préparé un ciel, puis on s'en va là. Il y a toutes sortes d'affaires de miraculeuses, comme je disais tantôt, on peut parler, mais aussi des explications qu'il nous a données, raconter ce qu'il a enseigné. Quand tu parles du Seigneur, ça met de la semence dans les cœurs des gens. Après, le Seigneur lui sert de ça pour les amener. Dieu veut qu'on parle de son salut à tout le monde. Ça, on voit ça dans le psaume 96, 2. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Parlez de son salut, parlez de ce que Jésus a fait pour qu'on puisse être sauvé. À tous les jours, ça dit dans ce passage-là. Puis ça dit aussi en chantant, parce qu'il dit « Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, puis annoncez de jour en jour son salut. » Tu peux le faire en parlant, puis tu peux le faire en chantant. Mais il faut en parler. S'il n'y a pas de chrétiens qui parlent, tous ces gens-là que vous côtoyez s'en vont tous dans l'étang de feu en mourant dans leur péché. Dieu veut qu'on parle aussi de ce qu'il a fait dans notre vie. Je suis sûr que vous avez vécu des choses ou entendu des choses qui vous ont convaincu ou vu des choses que Dieu a faites, une réponse à une prière, un miracle quelconque. Il fait des choses. Peut-être vous n'avez pas demandé encore des choses précises. Commencez à en demander pour en voir des choses si vous pensez que vous n'avez pas eu. Mais il veut qu'on parle de ce que fait dans notre vie. Dans Marc 5, 19, ça nous dit... Il y a quelqu'un qui venait de se faire délivrer de démons. Il y avait des mauvais esprits après lui. Puis il voulait suivre Jésus. Puis Jésus, il a dit, « Suis-moi pas. » Mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Et comment il a eu pitié de toi. » On peut le dire, ça. Oui, le Seigneur est venu me chercher. J'étais dans la drogue, j'étais alcoolique, j'étais un blasphémateur, j'étais quelqu'un qui vivait dans la débauche sexuelle. Peu importe là, tous les sujets, c'est vous qui les savez. Peut-être que vous haïssiez du monde, vous étiez des meurtriers aux yeux de Dieu en haïssant le monde. On était ça, mais le Seigneur est venu, puis il a parlé à mon cœur, puis il m'a dit que je pouvais être pardonné, puis j'ai accepté Jésus, puis j'ai été sauvé. Il m'a délivré de cela, Ça, c'est de raconter ce que le Seigneur fait dans vos vies. Racontez votre témoignage. C'est aussi des choses qu'il veut qu'on raconte. Dieu veut qu'on leur parle aussi de ce qu'il va faire dans le futur. Dans l'éternité, même dans le futur terrestre, il a annoncé son retour dans la Bible, que Jésus va revenir, puis tout œil le verra, puis ceux qui se sont pas repentis, ça va barder, puis il y en a qui vont être enlevés, puis qui vont s'en aller avec le Seigneur pour vivre l'histoire sans fin avec le Seigneur. Mais c'est de raconter ce que Dieu va faire. C'est encore des choses qu'on peut dire. Dans Actes 4, 33, ça dit, « Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. » Puis quand il dit le mot « témoignage » que là, le mot « témoignage » dans ce verset-là, ça dit, « C'est le rôle affecté aux prophètes de témoigner de ce qui concerne les événements futurs. » Ça veut dire qu'il ne faisait pas juste rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans le passé. Il rendait témoignage de ce que Jésus était pour faire en étant ressuscité. C'est des choses à venir. Fait que, est-ce que vous le savez de ce qui s'en vient avec le Seigneur? Vous avez déjà des idées. Ça fait toute partie des choses que vous pouvez expliquer aux gens. On commence à en avoir un peu. Des idées à dire. Frères et sœurs, tout ce qui vient de la parole est bon à dire. Si Jésus nous l'a fait, il a permis que ça soit écrit pour notre instruction, c'est bon aussi pour leur instruction aux gens du monde. C'est même nécessaire ce qu'ils entendent. Parce qu'il y a tellement de fausses religions aujourd'hui, là, qui même s'ils sortent des passages, mais ils tordent les sens des versets. Puis là, ils conduisent le monde en cours d'un ténèbre, même s'ils prennent des versets. Ils font un job du diable. Parce que le diable, lui-ci, a tordu les versets pour les dire à Jésus. Il tordait le sens. Il voulait amener Jésus à désobéir à son Père en tordant un verset. Jésus s'est servi d'un autre verset pour y répondre. Mais le monde a besoin d'entendre la vérité parce qu'ils entendent déjà des choses sur Dieu, mais provenant de fausseté. Puis ça les éloigne de Dieu. C'est en parlant des vraies affaires qu'ils vont se convertir. Un autre point là que ça nous parle dans la parole de comment est-ce qu'on doit être quand on parle du Seigneur aux gens. On n'est pas là pour blaster les gens et frapper dessus, là. C'est le contraire. On est envoyé pour supplier les gens, supplier le monde de se réconcilier avec Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, 20, ça dit, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. » C'est ça, je vous dis. On est des ambassadeurs, des envoyés, des représentants du royaume de Dieu. Comme si Dieu exhortait par nous en disant, « Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. » On est envoyés à demander, en suppliant le monde, lui demander de se réconcilier avec Dieu, pas en tapant sur eux autres. Oui, Jean-Baptiste tapait sur les autres. Mais c'est à prophétiser que Jean-Baptiste, lui, il est, dans la prophétie, ça disait qu'il était pour être envoyé pour niveler les buts puis remplir les fossés. Lui, il avait un job de bulldozer à faire. Lui. C'est pour ça qu'il parlait en disant, race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il lui disait, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Puis ne vous mettez pas à vous dire que vous avez Abraham pour père, quand je vous le déclare de ces pierres-ci, Dieu peut faire des enfants Abraham. Il dit déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Il parla direct en blastant, parce qu'il avait un job de bulldozer, lui, pas nous. Nous, on a un job de supplier. Supplier, là, c'est que tu te maquettes pas, je te dis pas de te mettre à genoux devant personne pour pouvoir... Non, mais je t'en supplie, réalise qu'est-ce qu'on te dit, c'est important que tu comprennes. Puis là, supplier à personne, c'est d'y aller par en dessous, puis à l'encourager à venir au Seigneur, puis de se réconcilier, parce que les gens sont ennemis de Dieu en poursuivant leur chemin de rébellion contre Dieu. Si les gens ne vont pas à Jésus pour être pardonnés, ils se font eux-mêmes ennemis de Dieu. Puis ils vont subir la colère de Dieu. Dieu veut à tout prix que les gens se réconcilient avec lui en demandant pardon, puis en joignant à son corps, qui est l'Église, pour être une équipe qui avance, pour continuer à en sauver d'autres. Dieu veut répandre par nous son odeur. Trouvez-vous que ça sent Dieu dans la réunion ici? Quand on sort du site, là, on est comme rempli des pensées de Dieu. On a senti son odeur. On porte son odeur. Quand on sort dehors, il faut encore sentir l'odeur de Jésus qui sort de nous pour le donner aux autres. On porte son odeur dans le monde. C'est ce que ça nous dit dans le prochain verset, dans 2 Corinthiens 2,14. Ça dit, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Ça, c'est déjà qu'on marche dans la victoire parce qu'on est en Jésus. « Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Dieu répand par nous l'odeur de Dieu. Mais les gens du dehors vont-ils sentir quelque chose si on n'est pas en train de leur parler de Dieu? C'est notre mission en tant qu'ambassadeur de parler de Dieu puis de donner l'odeur de Dieu. Alors, quand on parle de Dieu, on est en train de lui faire sentir c'est quoi que ça sent être en Dieu. La paix, la joie, l'amour, la douceur, la patience, la bonté, la gentillesse. C'est ça que ça sent, le fruit de l'Esprit. En tant que chrétien, frères et sœurs, là, 2000 ans plus tard que la Pentecôte, on n'a plus à attendre que le Saint-Esprit vienne. Il est déjà là. Le Saint-Esprit de la Nouvelle Alliance est déjà répandu, il nous a déjà parlé, il est déjà rentré dans nos vies, il est déjà assis ici avec nous dans l'Église, il est en chacun de ceux qui se sont repentis, on est tous des nés de nouveau, le Saint-Esprit est là, puis là on n'a plus à attendre de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a déjà été donné pour qu'on soit des témoins. Dans Jean 15, 26, quand tu reçois le Saint-Esprit, il dit, quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Ça veut dire qu'il est déjà distribué, puis il est déjà en train de rendre témoignage de Dieu. Il nous l'a témoigné, puis là, on le témoigne aux autres. Il est déjà là, frères et sœurs, pour qu'on soit dans l'action. Nous l'avons reçu à notre conversion, puis il veut agir au travers de nous en nous utilisant pour témoigner de ce que Dieu fait et ce qu'il veut faire. C'est pour cela qu'il avait été donné à Pentecôte, parce qu'il n'était pas encore descendu selon la grâce de la Nouvelle Alliance. Mais depuis la Pentecôte, il est descendu. Jésus leur avait promis qu'il était pour leur savoir. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Qu'est-ce que ça fait, témoin? Ça témoigne. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Beauharnois. La parole est venue jusqu'aux extrémités de la terre, Beauharnois. Puis on l'a reçu. Puis il en reste encore qui ne l'ont pas entendu, la sainte doctrine. Il faut la doctrine du Seigneur qui peut les sauver. Être un témoin, là, dans le sens légal, puis il y a un sens théorique, historique, là, je veux dire, c'est être spectateur d'une chose. Par exemple, si tu es spectateur d'un combat, d'une lutte, t'es témoin, tu vois la lutte, puis après ça, tu peux raconter ce que tu as vu. Tu es un témoin. Mais nous, en tant que chrétiens, on est nés de nouveau, on a vécu des affaires, on a entendu des paroles du Seigneur dans la parole, puis on est là pour répandre ce qu'on est témoin. Le Saint-Esprit veut faire de nous des témoins. Parlons du Seigneur. Les disciples, eux, ils parcouraient toutes les villes et les villages en évangélisant. Toutes les villes, partout, dans Actes 8-4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. C'est la parole. On annonce la parole de Dieu. C'est une puissance, la parole de Dieu, pour le salut de quiconque croit. Si tu crois à la parole, tu vas recevoir l'Esprit. C'est par la prédication de la parole qu'on reçoit l'Esprit. Tu entends parler de la parole, tu l'écoutes, tu la reçois, tu demandes pardon, le Saint-Esprit rentre dans ta vie. Tu deviens témoin. Puis, il allait partout en annonçant la parole, en espérant que les gens se convertissent. Comme l'apôtre Paul, on le voit comme exemple. Lui, c'était une machine à évangéliser, ce gars-là. Il rendait témoignage devant les petits et les grands, tout en restant biblique, en servant de la parole de Dieu. Dans Actes 26, 22, il dit, « Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, parce que plusieurs fois, ils ont essayé de l'enfermer en prison, de le garder là, ou même de le tuer, ils l'ont lapidé. » Puis il dit, « J'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. » Fait qu'il parlait à tout le monde, les petits, les grands, lui, ça le défrisait pas. Est-ce qu'on se sent défrisé quand on veut parler du Seigneur à quelqu'un? Est-ce qu'on est gêné? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on se sent timide? Est-ce qu'on se sent tout croche? Faut chasser ça si c'est le cas. Parce qu'il dit, quiconque aura honte de moi et de mes paroles devant cette génération perverse, j'aurai aussi honte de lui quand que le Fils de l'homme viendra dans sa gloire devant ses saints anges. Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Sommes-nous des gens qui ont honte de confesser? On ne parle pas juste de le confesser la première journée qu'on a accepté Jésus. C'est toute notre vie qu'on doit confesser Jésus sans gêne, sans honte, sans crainte. Parce que c'est notre sauveur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Puis il nous dit de ne pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, puis qu'après ils ne peuvent rien faire. Mais craindre plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est lui qu'on doit craindre. Dieu veut pas qu'on le fasse parce qu'on est forcé, mais il veut qu'on le fasse parce qu'on est reconnaissant, on l'aime le Seigneur, puis on le sait que c'est important qu'il faut qu'on y aille en parler, qu'on s'affiche, qu'on parle de Jésus dans ce monde. On peut apprendre des versets de base là pour expliquer le salut. Si des fois on dit vraiment là j'ai aucune idée, mais on peut faire un petit cours biblique là, puis peut-être c'est ça que le Seigneur va me conduire d'amener des études sur les choses de base pour le salut. Dans Actes 28, 23, là, l'apôtre Paul, c'est le même qui travaillait à lui tout en utilisant la Bible, puis servant de la Bible, cherchait un verset dans la Bible pour pouvoir les expliquer aux gens. Puis c'est ça. Je ne veux pas prendre d'exemple sur les religions, mais il y a des religions qui font ça, là. Témoins de Jéhovah arrivent chez vous, puis ils prennent leur Bible, puis, ou bien leur livre, puis ils t'expliquent des versets. Mais c'est de même qu'il faut faire. La même affaire que l'apôtre Paul faisait. Ça dit, ils fixèrent un jour plusieurs vins pour le trouver dans son logis, dans sa maison. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage. Et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader, ça veut dire qu'ils cherchaient avec des versets de la Bible à persuader les gens, à essayer de les convaincre, les amener à comprendre en utilisant des versets. Les chrétiens devraient faire un effort pour apprendre les versets de base qui expliquent pourquoi qu'on a besoin de Jésus, pourquoi qu'on faut l'accepter, pourquoi faut s'engager à le suivre et à le servir. Il y a un paquet de versets qui parlent de cela, puis tout le monde doit passer par là s'ils veulent être sauvés. Puis ils servaient de la Bible pour les persuader de ce qui concerne Jésus. Pourquoi qu'on doit croire en Jésus? Leur expliquer qu'un Messie devait venir, puis c'était annoncé qu'un enfant nous serait donné, puis que la domination serait sur ses épaules. C'était annoncé que ce Messie-là mourrait sa croix, qu'il se ferait enlever ses vêtements, puis tirer au sort sa tunique, qu'il serait percé des mains et des plis. C'était tout annoncé qu'il mourrait pour le pardon des péchés en prenant sur lui les péchés de l'humanité, qu'il ressusciterait le troisième jour, puis que son âme ne serait pas abandonnée dans le séjour des morts. C'était tout annoncé d'avance dans la Bible. Là, il servait des passages pour établir que Jésus, c'est le Sauveur, puis qu'il va revenir, puis il va juger les vivants et les morts. ça dit que l'entretien durera le matin jusqu'au soir. Il a passé la journée à lui expliquer. Ça, c'est ceux-là. Mais j'imagine aussi quand il était en prison, de 4 escouades, de 4 gars qui étaient là, qui passaient à tour de rôle pour le garder en prison, 2 gars chaque bord, puis il devait évangéliser toute la journée. Chaque occasion, l'apôtre Paul, il sautait dessus. Puis ça dit, Paul, il a dit à Timothée, insiste en toute occasion, favorable ou non, insiste, exhorte, censure, reprend, en toute douceur, mais en instruisant. Car il va venir un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ils vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Mais il faut quand même parler du royaume, même si ça ne le tente pas. Occasion favorable ou non. Puis là, Dieu va appuyer notre témoignage comme il le voudra, comme il l'a prévu. Parce qu'il le dit qu'il accompagnera notre témoignage par des signes. Ça le dit dans Hébreux 2, 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Fait que Dieu décide qu'à un moment donné, paf, il te donne une parole de connaissance. Paf, il te donne une prophétie pour les gens. Paf, il va te donner un don de guérison. Paf, il peut te donner n'importe quel don qui peut se manifester pour comme signe que Dieu est vraiment là en train de parler. Puis même, ça peut être aussi, quand le gars va s'en aller, il va parler à Dieu, puis Dieu va se révéler parce que tu as prié pour ça. Dieu sait comment faire pour convaincre les gens. C'est pas nous. Nous, on fait notre part, mais lui fait la sienne parce qu'on est ouvrier avec Dieu. On travaille en équipe pour le royaume. Avec un dernier verset. Un jour, on va être parmi les sauvés qui sont passés par le feu à cause de leur témoignage. Un jour, on va faire partie d'une multitude qui est devant le trône, puis qui sont passés par le feu, immolés, assassinés, parce qu'on témoignait du nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas témoigné, puis qui ont dit, moi, je parle plus de Jésus, puis je me retire. Ah, la marque de la bête, hein, je prends la marque de la bête, parce que moi, je veux pas de souffrance. Mais les autres, ils seront pas immolés, mais ils vont être jugés par le Seigneur, parce que la marque de la bête, il n'y a pas de pardon. C'est la tentation qui va venir sur le monde entier pour prouver les habitants de la terre. Les chrétiens vont être là, puis on va avoir à dire non. Mais il y en a qui vont périr à cause de ça. Puis ça montre un exemple dans Apocalypse 6-9. Et quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés, brûlés vifs. Puis le mot immolé que là, c'est offert en sacrifice à Dieu. Un immolé, là, tu prends un agneau et tu l'offras sur l'autel pour qu'il soit tué. Mais il y a des chrétiens qui vont être offerts, pas par les humains, mais les humains vont les tuer, puis c'est comme si ça donne l'image qu'on a été tué pour le royaume de Dieu, qu'on va passer à être les sacrifiés pour le royaume, à ceux qui ont péri pour le royaume, parce que on voulait rendre témoignage du Seigneur Jésus. Ça dit, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Sommes-nous des gens qui rendent témoignage du royaume? Sommes-nous des gens qui sont prêts à aller jusqu'à la mort pour parler de Jésus puis de témoigner de ce que Jésus fait dans nos vies? Le Seigneur s'attend qu'on y aille jusqu'au bout, sans crainte, sans gêne, sans honte, être prêt à témoigner coûte que coûte. Il y a un autre verset que Paul a dit à Timothée, il peut écrire dans mon étude, il dit « Souffre avec moi pour le royaume. » Supporte la souffrance dans un autre verset. Être prêt à aller jusqu'au bout parce qu'on veut rendre témoignage, on veut être des témoins du royaume de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui veulent être des témoins du royaume de Dieu? Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à obéir au Seigneur et dire, « Seigneur, fais de moi un témoin. Fais de moi un envoyé. » On l'est déjà, mais là, c'est parce qu'on a besoin d'être formé intellectuellement, à avoir un front plus dur que le diamant, de ne pas se laisser intimider, être prêt à vouloir parler devant les petits et les grands. Parce que nous, on représente de quoi encore plus grand qu'eux autres ne connaissent pas. On représente notre Dieu, on représente notre Sauveur, on représente son royaume, on représente le royaume de Dieu. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te demande de la graver dans notre cœur, Seigneur, puis dans notre esprit, puis qu'on ait à cœur d'être des témoins partout où qu'on va, parler de toi, parler de ton ce que tu as fait, parler de ce que ton salut, parler de ce que tu feras. Seigneur, on veut annoncer ton royaume. Il reste plus grand temps. Fortifie ton peuple. Fortifie tes enfants. Mets ta main sur chacun, Seigneur. Qu'on soit des soldats inébranlables, puis qu'on avance sans crainte, sans honte, sans gêne pour annoncer le royaume de Dieu. Je mets nos vies entre tes mains. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.